Voici le témoignage que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous. Il est un peu long, mais il me semblait nécessaire de vous en dire un peu plus sur mon histoire et mon ressenti intérieur, qui n'est, je le précise, que le mien, mais pour que vous puissiez comprendre un peu mieux pourquoi nous abordons cette thématique aujourd'hui. J'ai toujours su que j'avais ce côté exigeant, perfectionniste, que ce soit envers les autres ou moi-même. Mais je ne mesurais pas à quel point cette hyper façon d'être à la vie m'a amenée insidieusement au fil des années à un mal-être profond. Hyper depuis toute jeune, avec cette obsession du toujours plus, je me suis laissée complètement aspirer par cette course à la performance qui régit notre société, les entreprises ou le monde. Parce que oui, ma vie est une course à la performance. Elle a été une course à la satisfaction et l'amour de mes parents. Elle a été une course à la réussite professionnelle. Tout faire pour être efficace, plaire à ses collègues, son patron, être utile à la société, avoir une promotion, une prime. Cette course à la performance m'a fait passer à côté de la vie, de la vraie vie. J'ai eu un électrochoc il y a 7 ans. Je ne suis pas allée à l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie précieuse parce que je devais travailler. J'organisais des mariages et séminaires dans un hôtel à l'époque et je ne pouvais pas poser 2 week-ends de grandes activités professionnelles de suite pour des raisons personnelles. Qu'aurait pensé mon patron? Qu'auraient pensé mes clients? Comment aurait-il fait sans moi? Et ma précieuse amie est décédée la semaine précédant son mariage. Si je n'avais pas été là ce week-end-là, ni mes clients, ni mon patron ne s'en rappelleraient aujourd'hui. Je me rappelle d'ailleurs même pas moi-même de leur visage ou de leur nom. Mais je regrette encore de ne pas avoir pu passer ce dernier week-end-là avec mon ami. Ce fut la fin de ma volonté d'une quelconque carrière professionnelle. J'avais l'impression de passer à côté des vrais moments importants que la vie m'offrait. Puis elle a quand même été une course à la matérialité. Dès 18 ans, j'ai quitté le foyer familial, je devais subvenir de manière autonome à mes besoins, payer ma facture, finir le mois. Puis j'ai grandi, nous nous sommes mis en couple avec Olivier et nous avons cherché à avoir une meilleure voiture, une maison avec un jardin, le dernier téléphone ou le vêtement à la mode. Alors oui, nous avons plus ou moins eu tout ça. Cela ne nous a pas du tout rendu plus sereins, mais ça a flatté notre ego. Et puis, la voiture est tombée en panne, les murs de la maison se sont fissurés, les vêtements se sont distendus et nous étions encore moins sereins. Alors après ces longues années, à croire que le matériel et l'argent rimaient avec bonheur et sécurité, nous nous sommes lancés dans une nouvelle course et c'était la course à la parentalité. La course à la parentalité, le développement personnel, la spiritualité. Elle était là à la clé, nous changer nous-mêmes. Nous étions donc sans cesse dans l'analyse personnelle, en quête de nouvelles façons de faire, de nouveaux outils, avec toujours cette croyance de devoir faire mieux, cette obsession du toujours plus, de proposer toujours plus, d'en savoir toujours plus. J'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait « Regarde tout ce que font les autres mamans à côté quand même, t'es vraiment pas à la hauteur. » Jusqu'à nous lancer en 2016 dans un nouveau projet d'école pour nos enfants. J'avais enfin trouvé l'école parfaite, dans un environnement parfait pour nos enfants, avec des gens qui, en théorie, pensaient comme moi, comme nous. J'étais tellement heureuse sur un petit nuage avec toute ma jolie famille. Tout était parfait. Mais comme rien ne dure jamais et que la perfection n'existe pas, que la vie est mouvement, mon nuage s'est vite effrité et je suis tombée de haut. Alors bien que depuis de nombreuses années, j'arrivais suffisamment à me contrôler, à me mentir intérieurement et à me relever sans cesse de mes échecs pour repartir tête baissée avec mes œillères, à créer et vivre ce monde de bienveillance, cette fois-ci, la chute fut trop grande. Je me suis vite retrouvée face à ce que j'essaye en fait depuis toujours de bannir de ma vie, ce qui est la violence. La violence humaine au sens large, au sens général. Quand j'étais toute petite, déchirée et ébahie devant la violence du monde, je me suis promise, je passais un contrat avec moi-même, je me suis dit que quand je serai adulte et que j'aurai le pouvoir sur ma vie, je vivrai dans un monde sans violence, sans souffrance, sans manque. Alors voilà, depuis toute petite, je fuis ou je me révolte devant tout ce qui me paraît être injuste, méchant ou violent. Mais dans cette histoire, moi aussi je me bats et je m'abîme du coup. Et ce qui réveille en moi très souvent depuis toute petite, cette violence intérieure qui peut être parfois si envahissante. Ce contrat que j'avais passé avec moi-même à 7-8 ans de ne vivre et ne faire vivre à mon conjoint, mes amis, mes enfants, que du positif. Cette motivation qui a conditionné toute ma vie s'est effondrée. Toutes mes structures internes, en fait, se sont effondrées. Alors voilà, c'est cette lourde chute qui m'a permise d'arrêter de courir. Fini la course au monde que j'avais imaginée depuis toute petite. C'est comme si, d'un coup, on m'avait enlevé un voile devant les yeux. J'avais une vision complètement erronée, en fait, de la réalité, renforcée par mes exigeantes attentes. Et voilà, si je ne cours plus pour être une meilleure maman, une meilleure femme, une meilleure fille, si je dois penser à moi avant les autres, comment je fais ? C'est quoi le but ? C'est quoi le sens de la vie ? L'année 2017 a été une grande année de compréhension, de réparation, d'évolution intérieure pour moi. Je ne cherche plus à être performance, à être performante, à être uniquement le meilleur côté de moi-même. Mes expériences m'ont vraiment montré que j'en ressors épuisée, perdue, vidée, que vouloir me changer, que vouloir être quelque chose que je ne suis pas est complètement vain. Mais l'idée, c'est plutôt aujourd'hui d'être. Ce qui, pour une angoissée comme moi, n'est vraiment pas évident. Je n'avais pas compris intérieurement le sens de l'amour inconditionnel, jusqu'à ce que je rencontre Nathalie Bridonneau et la théorie de l'union des contraires. L'amour, ce n'est pas que le bonheur, la joie, la satisfaction, le soleil. La vie, ce n'est pas que le bonheur, la joie, la satisfaction, le soleil. C'est aussi la tristesse, le malheur, la violence et la pluie. Il est vraiment important d'intégrer pour sa santé mentale que la mission d'hyper-parents est incompatible avec les lois terrestres de la vie. Se sentir toujours heureux, toujours souriant, en joie, ce n'est pas possible. Vouloir que son enfant soit toujours heureux et ne vive aucune difficulté à chaque instant de sa vie, c'est encore moins possible. Qu'est-ce que l'on peut se faire souffrir et s'épuiser en se donnant toutes ses responsabilités, en se mettant toutes ses pressions? Nous sommes vraiment tombés, Olivier et moi, dans toutes ces promesses extérieures, nous promettant de nous améliorer, de devenir plus heureux, d'être en bonne santé. Mais il est assez difficile d'être serein face aux multiples recommandations et informations auxquelles nous sommes soumis chaque jour. Surtout pour les personnes excessives qui se mettent la pression de toujours avoir à en faire plus pour être aimé. Alors, l'idée aujourd'hui pour nous, c'est de garder l'intention de départ en enlevant la peur, le discours intérieur, la pression, la culpabilité. Et c'est ce que représente pour nous la parentalité consciente, respectueuse, saine, équilibrée. Accepter ce que l'on est, le point où l'on en est, le parent que l'on est, pleinement. Accepter autant ses côtés positifs et négatifs pour évoluer vers plus de respect de soi et par ricochet des autres, vers un élargissement de la conscience, vers la paix intérieure. Et ça, c'est magique. Il n'y a plus besoin de contrôler. Ça se fait tout seul. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour la suite de ces explications sur la théorie des contraires. Tout ça, c'est dans le prochain article. Voilà, à bientôt.